Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission où nous accueillons aujourd'hui Marion Gatiot. Marion est chargée de projet nutrition auprès du pôle santé des populations à la ville de Nantes. Marion, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ensemble pour parler de santé et précarité alimentaire dans le contrat local de santé de la ville de Nantes, le CLS, et le projet alimentaire de territoire, PAT, élaboré par Nantes Métropole. Un focus mérite d'être fait sur l'expérience de l'implantation d'un défi alimentation positive dans un quartier prioritaire de Nantes-Nord. Avant tout, Marion, comment et pourquoi santé et précarité alimentaire sont-elles abordées dans le contrat local de santé de la ville de Nantes et le projet alimentaire de territoire à l'échelle métropolitaine?
Alors, la mobilisation de la ville sur les questions d'alimentation est assez ancienne maintenant. C'est une des thématiques importantes de la politique de santé publique. Nantes est engagée sur ces questions-là et a formalisé cet engagement en 2009, notamment en devenant ville active du PNNS, hein, du Programme National Nutrition Santé. Donc, quand le premier contrat local de santé a été élaboré en 2012, c'est apparu assez naturel qu'une fiche action soit consacrée à la question de la nutrition. Et après, plus particulièrement sur la précarité alimentaire, on a aussi comme thématique de travail au niveau de la direction de la santé publique l'observation de la santé. Et grâce à nos collègues de la santé scolaire qui réalisent des bilans de santé dans les écoles, puisque Nantes a une délégation de l'éducation nationale pour exercer la compétence de santé scolaire, on peut analyser les données des bilans de santé. Et donc, on observe que la problématique du surpoids et de l'obésité est plus fréquente sur les quartiers prioritaires de la ville, notamment par rapport à la moyenne de la ville. Donc, le premier contrat local de santé a été l'occasion de soutenir le développement de projets de prévention, notamment dans les quartiers, mais avec les acteurs, on a fait le constat, malgré l'importance et la pertinence des actions de prévention, un constat de difficulté d'accès à une alimentation saine et donc la volonté d'agir sur les déterminants sociaux et environnementaux de la nutrition. Donc, on s'est rapproché, notamment, j'ai eu l'occasion de développer des collaborations il y a plusieurs années avec Nantes Métropole sur les questions d'agriculture périurbaine pour notamment développer un marché sur Nantes Nord aussi. Ça avait d'ailleurs fait l'objet d'une présentation lors d'une édition précédente des rencontres territoriales. Donc, ces collaborations Ville-Nantes Métropole autour de l'alimentation, de l'accessibilité à tous, elles ont été initiées il y a plusieurs années et souhaité être renforcé lors de l'élaboration du deuxième contrat local de santé qui a été signé l'année dernière. Et donc, l'enjeu de santé a été pris en compte lui aussi dès le départ de l'élaboration du PAT, comme il y a eu une démarche de concertation assez élargie.
Très bien, donc une collaboration très étroite entre une ville-centre et sa métropole sur ce type de questions. Concrètement, pouvez-vous nous expliquer l'expérience de l'implantation d'un défi alimentation positive sur Nantes-Nord?
Alors, on a implanté ce défi alimentation positive sur Nantes-Nord en 2019 parce que, en parallèle de l'élaboration dont j'ai parlé du contrat local de santé et du PAT, sans attendre que ces feuilles de route soient finalisées, on avait lancé un diagnostic sur ce quartier, sur la problématique plus spécifique de l'accessibilité aux fruits et légumes, dont le constat avait été fait qu'il était compliqué pour les habitants de ce quartier en situation de précarité d'accéder à des fruits et légumes frais. Donc, un groupe de travail a été initié sur le quartier, un diagnostic mené avec à l'issue deux axes de travail, de poursuivre et renforcer les actions de prévention, de sensibilisation, de médiation autour des fruits et légumes et de travailler à des nouvelles offres pour améliorer l'accessibilité financière aux fruits et légumes. Donc, quand dans le cadre de l'élaboration du PAT, il a été proposé par la métropole que les défis alimentation positive qui sont coordonnés par le GAB, qu'on puisse en implanter un sur un quartier prioritaire de la ville de Nantes, on a saisi l'opportunité pour en implanter un sur Nantes-Nord, car ça faisait sens par rapport à la démarche qui avait été lancée et qui répondait aux préconisations du diagnostic qu'on avait mené avec les acteurs et les habitants du quartier. Donc, concrètement, il y a un cadre qui est global à l'échelle de la métropole sur les défis, à savoir il faut un référent qui constitue une équipe d'habitants qui vont se retrouver avec des rendez-vous pour partager sur l'alimentation, participer à des actions de sensibilisation autour de l'agriculture, de l'équilibre alimentaire, etc. Donc l'opportunité de développer un défi alimentation positive sur Nantes-Nord, c'était vraiment l'opportunité de concrétiser les orientations du diagnostic et on avait le souhait de l'adapter pour bien intégrer la dimension santé et que ce format de défi soit accessible à un public en situation de précarité et de pouvoir le connecter aux autres projets de promotion de la santé qui étaient en œuvre sur le quartier.
Merci de ces précisions. Quelle sur la méthodologie employée et les moyens engagés?
Donc, au niveau de l'implantation de ce défi sur Nantes-Nord, eh bien, on s'est appuyé sur le groupe de travail qui avait été mis en place sur le quartier. Ce qui est important à préciser, c'est aussi que la référente du défi est une collègue du pôle développement territorial de la collectivité qui, au niveau du quartier, la référente des trois politiques publiques que sont la santé, l'inclusion sociale et les personnes âgées. Donc, c'est avec elle qu'on a construit la méthode du défi et en lien avec le GAB, le groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique. Donc, elle, en tant que référente, elle a participé au comité technique des défis alimentation positive. Donc, nous avons fait le choix donc d'adapter la méthode du défi pour qu'il soit adapté au contexte du quartier. Donc, ma collègue du pôle développement territorial était la référente du défi. De façon habituelle, jusque-là, les référents des défis alimentation positive sur la métropole étaient plutôt rattachés à une structure. Et donc, nous avons fait le choix que ça soit ma collègue qui porte les politiques publiques de santé, d'inclusion sociale et de personnes âgées porte elle-même le défi et construise après son contenu avec les acteurs du territoire. Nous avons aussi, pour qu'il puisse être adapté au quartier, adapté la communication hein, pour centrer les objectifs plutôt sur les fruits et légumes et non pas sur le bio, car c'était un des enseignements aussi du diagnostic que le bio pouvait être perçu comme inaccessible, pas pour les habitants les plus fragilisés. Et on avait aussi la volonté d'être dans une démarche participative, donc de vraiment construire le contenu des animations du défi avec les habitants. Donc ma collègue du territoire a pu mobiliser presque une vingtaine d'habitants, hein, puisque 19 ont participé au rendez-vous et la première séance de la constitution du groupe a vraiment été de partir des attentes des habitants et de construire les rendez-vous au fil des semaines avec eux. Et puis après, le groupe a participé aux rendez-vous réguliers qui étaient proposés à l'échelle de la métropole, le lancement, un rendez-vous au milieu du défi et un rendez-vous de clôture. Donc voilà, plusieurs rendez-vous de janvier à juin. On a souhaité aussi que ce défi s'inscrive vraiment dans la dynamique collective au niveau du quartier. Donc, la référente du défi à la fois s'inscrivait dans un parcours de formation qu'on a proposé aussi à des partenaires du quartier qui ont pu eux aussi se former aux questions d'alimentation, d'accessibilité et de santé. Donc concrètement, il y a eu 19 habitants de mobilisés qui ont participé à 10 rendez-vous, qui ont eu des actions spécifiques à leur groupe, pensées pour eux, comme par exemple un atelier sur la lecture d'étiquettes, une visite de ferme avec le producteur local en proximité du quartier, des ateliers sensoriels, mais aussi des actions ouvertes plus largement au grand public sur le quartier, comme par exemple un débat théâtral dans le cadre d'un programme qu'on avait avec les mutuelles par ailleurs sur le quartier. Donc une méthode assez mixte entre des rendez-vous spécifiques au groupe du défi et puis des rendez-vous plus larges aux habitants du quartier inscrits dans une dynamique avec les différents acteurs, notamment les centres socioculturels du quartier.
Enfin, quel bilan dressez-vous de cette expérimentation et quels sont selon vous les leviers de réussite ?
Alors, pour nous, c'est un bilan très positif, en premier lieu parce qu'on a pu mobiliser dans la durée des habitants qui se sont vraiment cheminés sur les questions d'alimentation, d'agriculture et de santé, qui se sont questionnés, qui ont fait évoluer leur pratique d'achat et leur pratique alimentaire, hein, parce que un des outils proposés par le défi, c'est un relevé de prix tout au long du parcours du défi, et les habitants ont témoigné de leur mobilisation et de leur évolution. Ils ont pu d'ailleurs, pour certains, plaider et partager ce que leur avait apporté le défi auprès de d'autres structures du quartier et même dans des temps forts de la mise en œuvre du projet alimentaire de territoire. Et ce qui est positif aussi, parce que le défi était en 2019, c'est que des habitants du défi continuent à se mobiliser sur ces questions-là. Certains se sont constitués en association pour pouvoir collaborer avec le maraîcher, faire des plantations dans le quartier, donc ce qui est vraiment positif. Ça a été positif aussi pour les collègues et la dynamique du territoire, puisque ça donnait accès à des formations et que c'est des collègues et des partenaires qui se sentent plus outillés pour mener des projets sur ces questions et dans le cadre de leur mission. Donc la dynamique s'est poursuivie sur le quartier, puisqu'un défi a été porté cette année par un centre socioculturel du quartier. Un autre centre socioculturel va se mobiliser pour l'année à venir. Des paniers solidaires de fruits et légumes ont pu se mettre en place avec ces partenaires-là pendant le confinement. Une programmation commune à l'échelle du quartier est réalisée. Donc un investissement important et nécessaire en termes de temps et de moyens, mais on voit que ça a permis vraiment de soutenir la dynamique du quartier et enrichir l'élaboration de la feuille de route du PAT et du CLSA, puisque on a vraiment aussi partagé les enseignements de cette méthode et on a des perspectives d'implantation de défis sur d'autres quartiers nantais désormais aussi.
Merci beaucoup Marion Gracio pour ce retour d'expérience. L'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes chargée de projet nutrition auprès du pôle santé des populations à la ville de Nantes et que les auditeurs pourront vous réécouter et télécharger cette émission sur radio.cnfpt.fr. Au revoir à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine émission.
Merci.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.